réalité qui, de fait, est celle qui prend le plus de temps dans notre vie. Je crois que Saint-Pierre doit avoir un appareil particulier pour compter toutes les heures de travail. Toutes les heures de travail que, de fait, nous avons. Saint-Joseph, le patron du travail, Si, c'est très bien, c'est un petit pèlerinage, Saint-Joseph. C'est très bien d'avoir choisi le premier, mais est-ce que Saint-Joseph, il habite quand même ici, vous savez. Il est quand même ici. La Sainte Vierge prend la première place, mais Saint-Joseph aime bien quand la Vierge Marie a la première place. Et je crois que tu restes pour que Saint-Joseph nous aide dans notre travail. Il veut être très uni à Marie. Parce que dès qu'il pressent que Marie est là, Joseph est là. Devant cette jeune maman qui attend un enfant. C'est pas bien. soi-disant est civilisé. Éduqué par l'Esprit Saint. Il est éduqué par l'Esprit Saint, le peuple d'Israël. Et ce sont tous les descendants de David. Ben, ils sont de bonne race, descendants de David. Et parmi ces descendants de David, il y a des gens qui ne sont pas du tout aimables. Ils ne sont pas du tout ce qu'ils devraient être, même pas au point de vue humain. Une jeune maman qui attend son enfant, on fait de la place. On dit, mais oui, prenez. Vous savez bien, dans les tramways, dans les trains, surpontés, on voit une jeune maman qui attend un enfant. Et on reste assis. C'est grotesque, hein, c'est un monde de décadence qui fait ça. Quand on est encore plein de jeunesse et plein d'amour, on fait tout de suite de la place. On n'a pas fait de place. Et Joseph s'est pas mis en colère. Curieux, c'est dû. Il a cherché un lieu. Et puis, on voit Joseph, oui, il était à Nazareth. On dit qu'il était juste et craignant Dieu. Voilà la seule chose qu'on dit de lui, selon une tradition. Et Joseph, à Nazareth, vit avec Marie. Marie attend son enfant. Ils sont obligés de partir à cause de l'édit de César.
Moment très difficile, c'est
travail, au moins, c'est... Il a du travail. C'est... Alors, je crois qu'on va essayer de comprendre pourquoi, mais je constate, je regarde. Et comme ça, Joseph est donné comme patron de travailleur. Je vois que ça, Joseph, c'est un silencieux. C'est un homme patient. Un silencieux. Il a un très grand cœur. Il aime beaucoup Marie. Ah, ça, oui. On voit bien. Quand il voit Marie qui a gardé le silence, qui n'a rien dit, et qu'elle attend un enfant, il est très très ennuyé, il l'aime tellement. S'il ne l'aimait pas, ben, c'est très bien. Ça aurait été très vite fait. Si c'est comme ça que ça se passe, très bien. Va-t'en, c'est tout. Pas du tout. Il cherche le moyen. Et ça, je trouve ça très très grand. Ça montre la magnanimité de Joseph. Alors, c'est peut-être lié au travail aussi, ça. Psychanalyste prend liberté, liberté, on peut faire ce qu'on veut. Alors, votre liberté, elle est curieuse. Elles ont quand même disputé un petit peu. Elles n'ont pas permis qu'ils prennent la photo. Alors, quand ils sont rentrés le soir chez eux, et c'est là où je les ai vus, ils m'ont dit, parce qu'avec moi, ils pouvaient parler librement, ils m'ont dit, c'est notre faute, tout ça. On a vulgarisé Freud. Et en vulgarisant Freud, on a supprimé l'autorité. Et en supprimant l'autorité, on a supprimé l'obéissance. Et en supprimant l'obéissance, on a supprimé l'exercice de la volonté. Et on fait des hommes qui n'ont plus aucune volonté. Alors, par le fait même, dès qu'ils trouvent un obstacle, tout de suite, ils s'insurgent. C'est la révolte. Mais lui, il y avait eu déjà, quelques années avant, à Paris, des jeunes de 14 ans qui, de fait, jetaient des pierres dans les vitrines. Ce qui se passait en Suède, déjà depuis un certain temps. Pourquoi ? Parce qu'en famille, on n'osait rien dire. Le gosse faisait ce qu'il voulait. Absolument ce qu'il voulait. Alors, parce que le gosse faisait absolument ce qu'il voulait, ben oui, son caprice. Il n'avait pas quelqu'un qui disait « Ah non, pas ça ». Alors, dès qu'il sortait, ben, il y avait des gendarmes ou des policiers. Ils leur disaient « Faites pas ça ». Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne pouvaient pas accepter. Ils n'acceptaient pas. Ils manifestaient leur mécontentement en jetant des cailloux dans les vitres. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre qu'on a supprimé l'autorité paternelle. Ça revient un peu lentement, mais on a supprimé l'autorité paternelle. Et par le fait même, on a supprimé l'obéissance et on ne cultive plus sa volonté. La volonté se cultive quand il est en face de difficultés. Et alors à ce moment-là, on commence à vouloir être attentif à ce qu'on doit faire. Chaque fois qu'on obéit, ce qui n'est jamais drôle, hein, c'est évident. Mais le travail implique l'obéissance. Hein, c'est pour ça que je parle de ça. Et c'est dans ce sens-là que le travail impliquant l'obéissance, tu feras ton devoir, ça, non ? On n'a pas envie du tout de le faire, hein. On a envie de faire autre chose. Dès que quand on ne s'applique plus. Il faut s'appliquer à telle ou telle chose particulière, réaliser cette chose. Ça, c'est la volonté qui se fait. Éduquer sa volonté, c'est devenir capable de travailler. Il n'y a pas de travail sans une volonté qui nous permette de nous appliquer. Vous voyez, le travail, parce qu'il est l'expérience la plus étendue de notre vie humaine, il faut bien le reconnaître. Parce que ce travail est l'expérience la plus étendue de notre vie humaine. Le travail est à la base de toute éducation. Le travail réclame l'obéissance. Le travail, c'est souvent la première expérience qu'on fait de l'autorité. Souvent, on l'a fait quelquefois en famille avec le père de famille, c'est peu, mais c'est très vite, lorsqu'on est obligé de travailler, qu'on est en face de quelqu'un qui nous donne des devoirs. Donnez des devoirs, vous devez faire ça, de vous appliquer à ça. Donc applique notre volonté et exige de nous d'acquérir un peu de volonté. La volonté qui nous permet de nous appliquer, qui nous permet d'être... Encore une fois, c'est pas très drôle. Vous allez dire ça, Joseph, c'est pas drôle de ça. Parce qu'au fond, il nous oblige. Le travail nous oblige, l'obéissance nous oblige. dès qu'on a un peu de temps, on se met à travailler à ce qu'on aime. Parce qu'il y a un travail obligatoire et il y a un travail qu'on aime. Ça, c'est sûr. Quel est votre violon d'âme ? Vous savez ce que ça veut dire, hein ? Quel est votre violon d'âme ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie de travailler pour vous ? Ça vous amuse ? Quel est votre violon d'âme ? Il y a eu cette réponse étonnante. Quand il y a eu la, comme pape Jean XXIII, il avait des cousins italiens dans le midi de la France, qui étaient maçons. Alors on a demandé à ces maçons, quel est le violon d'âme de votre oncle ? Que c'est s'occuper de l'église. Oui, pour quelqu'un qui venait de nommer pape, c'était parfait. Son violon d'âme, c'est d'être pape. C'est de s'occuper de l'église. Donc, ça prouve que c'était cela qu'il faisait avec le plus d'amour. Un travail qu'on fait avec amour. Alors, nous procure de la joie. Et fait que on le fait avec beaucoup plus de force et d'attention. Mais même un travail uniquement par devoir, sans beaucoup d'amour, mais qu'on le fait parce qu'on doit le faire. Ce travail-là, si on prend goût à ce travail, petit à petit, ce travail va nous détendre, parce qu'il oblige d'être attentif. Et si on est attentif, à ce qu'on fait, au bout d'un certain temps, on est bien dans sa peau. C'est vrai. Mais oui, c'est agréable de travailler, je ne croyais pas. Le temps passe très vite. Beaucoup plus que quand on s'ennuie. Hein. Le temps passe très vite parce que on fait quelque chose qui nous a saisi, qui nous prend. On est lié à ce qu'on fait.
Normal. Je dis oui, je suis anormal.
maîtres qui auront la même forme d'intelligence que vous. Ils vous diront que j'ai un génie dans ma classe. N'y croyez pas, vous avez la même intelligence que le maître. C'est très joli, c'est au fond, je crois, d'une grande expérience de professeur. C'est-à-dire de reconnaître cela. Et c'est très vrai, on est tous intelligents. Et l'art de l'éducation, c'est d'essayer de développer la forme d'intelligence qu'on a. On a une intelligence affective, on a une intelligence d'artiste. Oui, et la bêtise, moi maintenant, mais qui a quand même existé longtemps, c'est de faire passer tout le monde par le même genre. Comme si on voulait faire que toutes les personnes soient de la même taille. C'est vrai, on est dans un monde où il faut que tout le monde fasse la même chose pendant un certain temps. Puis après, vite, vite, la liberté vient. Et alors on a été tellement obligé de faire la même chose avec, pendant un certain temps que quand on peut faire, quand on a un peu de liberté, on fait tout de suite quelque chose qui est complètement insensé. Parce qu'on a été trop lié, trop ligoté. On n'a pas mis assez de liberté. Je sais que c'est très difficile. Hein. C'est plus facile de serrer les écrous que de les laisser un peu libres. On est tous intelligents et il faut trouver le labeur où notre intelligence peut le mieux se développer. Et quand on a découvert ça, alors le travail qu'on fait dans ce domaine-là nous repose énormément. Vous voyez, être intelligent pour son violon d'ingres, c'est ça, être intelligent pour la matière dans laquelle on est un petit génie. Vous êtes tous des petits génies. Je vous connais pas, donc je peux le dire. Vous êtes tous des petits génies. Monsieur Joannès, je vous dis que ça ne peut être que des petits génies, n'est-ce pas ? Vous êtes tous des petits génies. Alors, si vous êtes tous des petits génies, découvrez votre génie. Découvrez le lieu où votre travail est agréable. Et ça repose. Et on le fait régulièrement. C'est-à-dire, au fond, avoir son petit jardin. On a mis des petites fleurs. Il est très heureux. Alors, quelquefois, c'est la matière qu'on travaille. Scolairement, ça peut très bien ça. On aime les mathématiques. Très bien, tant mieux. C'est notre violon d'ingres. Tant mieux. C'est un bon violon d'ingres. D'aimer les mathématiques. Et comme vous voyez, certains professeurs de mathématiques qui aiment les mathématiques, c'est merveilleux. Ils font des cours intelligents. Parce qu'ils aiment leur cours. Parce qu'ils aiment leurs étudiants. Alors il faut des cours intelligents. Et leur modèle. Il faut qu'on découvre ça, vous voyez. Vous devez vous-même découvrir le lieu où vous êtes intelligent. Où vous découvrirez la vérité. Si vous ne l'avez pas encore découvert, découvrez-le. Si vous l'avez déjà découvert, entrez à fond dedans. C'est très très important, ça, pour notre éducation personnelle. Parce qu'on doit orienter ça, sa vie. Je crois qu'au fond, quand l'Église nomme Saint Joseph patron du travail, est-ce que l'Église ne nous invite pas à ça ? Parce que Saint Joseph, il s'est tu. Donc il nous laisse libres. Et les patrons du travail. Saint Joseph ne nous a laissé aucun petit meuble. La table construite par Saint Joseph. Vous voyez ça ? Table construite par Saint Joseph. Tout le monde l'imiterait. Il n'a rien laissé. On est tout à fait très très heureux. Peut-être qu'à Nazareth, on a découvert le lieu où Saint Joseph a été enterré. Joseph le Juste. C'est beau, tu vas voir ça. J'y étais plusieurs fois, c'est très curieux. Évidemment, on est très heureux de découvrir ça. On a retrouvé un sépulcre étonnant. Et on a dit, traditionnellement, c'est la maison du juste. Et ça, Joseph, c'était le juste. Puisque ça, Joseph, ne nous a rien laissé. C'est merveilleux, ça. C'est un maître merveilleux qui nous laisse libre de découvrir où nous pourrons être le plus capables d'aider notre propre éducation. Quand vous aimez un travail, vous vous éduquez. Et quand ce travail se fait dans la ligne, je crois que ça coûte.
cause de ça que Saint-Joseph est le patron du travail. Parce qu'il s'est tu.
Je vous ai dit tout à l'heure que le travail fait taire. Mais taire de cette façon telle que Saint-Joseph nous laisse à chacun d'entre nous le soin de choisir l'orientation dans laquelle nous serons particulièrement intelligents, particulièrement habiles. Et n'attendez pas comme psychologue vous dise « Toi, tu es fait pour ça. » Oui, surtout pas. Attention, attention. Ça peut vous aider. Mais c'est pas lui qui vous dirige. C'est vous-même. Il faut soi-même avoir le courage de prendre un peu sa vie en main et dire « Oui, je crois que je suis fait pour ça. » Et quand on dit « Je crois que je suis fait pour ça. » On s'y donne à fond. Et quand quelqu'un dit « Non, tu n'es pas fait pour ça. » et que ça ne nous coûte pas du tout, on veut montrer à l'autorité qui nous a dit ça, parce qu'au fond, le choix de la vie, on est toujours maître du choix de la vie. Il y a eu une discussion très, très intéressante au Concile de Trente, l'Église éducatrice. Au Concile de Trente, on voulait resserrer la vis en face des réformateurs. On a voulu augmenter l'autorité des parents. On a dit qu'on devait obéir aux parents pour le choix de sa vie. Et pour le choix de sa fiancée, si on était un garçon. Et le choix du fiancé, si on était une fille. Et que si les parents n'étaient pas d'accord, le mariage ne serait pas valide. Le français était pour ça. Hein ? Pas oublié. Ce sont les théologiens espagnols qui étaient beaucoup plus proches de Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, proclamait que les parents n'avaient qu'un droit de conseil. Quand il s'agit de l'orientation de sa vie, les parents n'ont qu'un droit de conseil. Ce qui veut dire prends ta décision toi-même. Eh bien, pour prendre sa décision soi-même, il faut trouver le lieu où le travail pour nous est agréable. C'est très important. Puisqu'à partir de ce moment-là, vous prenez en main votre éducation. Vous n'êtes plus fils à papa, ou fille à maman, ou fille à papa, ou à grand-père. C'est mon grand-père qui m'a voulu que je fasse ce métier-là, mais c'est absolument impossible. Quand on a le grand-père très pur, qui dit « J'ai pas de petits-fils que se sont donnés au Seigneur, alors toi tu es si gentil, il faut que tu entres au séminaire, il faut que tu entres au monastère. » Mais il faut dire « Non, non, j'ai pas la grâce. Grand-père, si tu veux y entrer à ma place. » Il voulait dire ça. Puisque c'est lui qui a la vocation, qui dit ça, et c'est pas la petite fille ou le petit-fils, non, c'est Elle va lui dire si tu veux rentrer à ma place, c'est toi qui as la vocation. Et c'est comme quand le grand-père a rencontré une jeune fille, idéale, merveilleuse. Ah, il l'aime. Alors il était son fils, est-ce que tu as vu belle, elle est si gentille. Oui, elle est en train d'y arriver pour toi. Love.
politique, quand il veut diriger tout le monde, quand il veut une éducation la même pour tous, absolument, plus de diversité, plus rien, plus tout, on est tous citoyens, on est tous. C'est effrayant, c'est la tyrannie qui commence. Ah, on dit non, non, non. Il y a des libertés foncières qu'on doit respecter. Et la liberté première, foncière, qu'on doit respecter, c'est le choix de sa vie. Et le choix de sa vie, pour vraiment être capable de choisir sa vie, pour avoir été capable de choisir son travail, puisque le travail est l'expérience la plus fondamentale de notre vie, la plus radicale de notre vie. Et si on veut éduquer, il faut toujours se rappeler ça. C'est le grand principe. C'est très simple, parce que tout le monde peut tous trouver ça. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, demandez à Saint-Joseph aujourd'hui la grâce de vous faire découvrir, et vous fera découvrir. Et vous direz, oui, c'est à Rimont que j'ai découvert, où j'ai mis le travail, j'ai pris un peu d'expérience. J'ai dit, oui, c'est ça, c'est là, j'ai toujours... Et on ne m'a jamais oublié, aidé à faire ce travail-là, alors que c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, Saint-Joseph, patron du travail, parce que c'est le saint le plus silencieux qui soit. On n'a rien comme parole, on n'a rien comme œuvre. On ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il a aimé Marie. Il l'a aimée. Il a souffert à cause d'elle. Il a souffert de la maternité de Marie, sa maternité divine. Il l'a accepté. Il a été blessé dans son cœur. Il l'a accepté. Il l'a aimé encore plus. C'est la très grande joie de Joseph, c'est quand on lui a dit que. Et que ça venait directement d'en haut, de prendre Marie pour épouse. Parce que ce qui est né en elle est de l'Esprit Saint. Et Joseph est devenu, par l'amour qu'il a vu pour Marie, il est devenu Père de Dieu. Père de Jésus. C'est quand même quelque chose, ça. Pas arrivé tant d'hommes. Alors vous pouvez être amoureux de Joseph, hein, parce que si vous êtes trop amoureux de Joseph, vous comparez tous les hommes à Joseph, vous verrez tous qui sont inférieurs à Saint-Joseph. Parce qu'ils parlent et qu'ils imposent par leur fait même ce qu'ils désirent. Et vous voulez garder votre liberté, ce qui est normal. Il faut comprendre cela, parce que ça, je crois que c'est capital dans notre vie. Maintenir cette liberté fondamentale d'orientation. Là, il y a quelque chose qu'on aime. Avant d'entrer chez les Dominicains, je n'aimais que les mathématiques. Vraiment. Le travail mathématique pour moi, c'était... Je n'aimais que les mathématiques. Bon. J'ai offert au Seigneur les mathématiques. C'était embryonnaire. Mathélème, c'est très embryonnaire. Mais c'est rien. On commence à goûter. J'aimais que ça. Puis après, j'ai aimé la philo. Ça, le Seigneur me laisse. La philo, c'est l'étude de l'homme. La première fois que j'ai rencontré Saint-Père, il n'était pas encore pape. C'est plus facile. Il était cardinal. J'ai l'impression de rencontrer un apôtre, un des premiers disciples du Christ. C'était très extraordinaire. Et comme il avait enseigné la philo, et qu'il savait que j'enseignais, on a tout de suite parlé de philo. Et on s'est fait amis dans la philo, recherche de la vérité. Quand on rencontre quelqu'un qui aime la vérité, qui la recherche, on lui dit, faites un peu de philosophie, c'est bon pour vous, c'est excellent pour vous. La recherche de la vérité, c'est capital. On est heureux parce qu'on cherche la vie. Joseph aujourd'hui et demandez à Joseph de vous faire comprendre quelle est l'orientation radicale où vous aimez travailler. Si vous n'avez encore aucun lieu où vous aimez travailler, demandez à Saint-Joseph de vous éclairer quand même quel est le lieu où vous aimeriez travailler. Pour pouvoir prendre en main votre vie. Pour la prendre vraiment en main. Ça c'est capital. Je dis dans le monde d'aujourd'hui, où la socialisation est de plus en plus forte, où elle est séparée de tous les moyens, on sait que c'est lamentable. On sait que ça blesse les intelligences. On sait que ça blesse les cœurs. Et personne ne réagit. On se laisse aller. On descend. Vous savez comment Peggy définit cette conquête de soi-même? Peggy n'est pas un philosophe. Mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la France. C'était quelqu'un qui... merveilleux. Et c'est reposant, dire du Peggy. Peggy dit, tout le monde descend le fleuve. On fait comme tout le monde, on descend le fleuve. Et Peggy répète ça. Et Peggy ajoute, même les cadavres descendent le fleuve. Ils descendent le fleuve plus vite que les autres. Ça. Tout le monde le fait aujourd'hui. Un évêque, une fois, je dis pas qui, mais un évêque à la télévision, il dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? J'étais habillé en tenue de tout le monde. Ah, pourquoi êtes-vous comme ça? Mais tout le monde le fait. Ah, je croyais que vous étiez à la tête. Moi, je me suis mis à la queue pour faire comme tout le monde. Ben, on risque d'être comme ça, on descend le fleuve. C'est pas loin. Et quand vous regardez le Rhin, et quand vous regardez le Rhône, c'est quand même deux fleuves très très différents comme caractère. Et leurs sources sont proches. Oui. On va à la source pour choisir. Et vous remontez à la source pour choisir. Tandis que de l'autre côté, on descend le fleuve. On n'a pas choisi. Et quand on n'a pas choisi l'orientation de sa vie, tout devient très lourd. Je sais que c'est pas commode. C'est pas commode du tout aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses sont bouchées. Mais on peut toujours avoir la possibilité d'orienter ce qu'on aime le plus dans sa vie. Et ça, c'est déjà beau. Même si ça reste, si vous voulez, quelque chose de second, c'est quand même ce qu'on a choisi. Et donc, il est premier pour notre cœur. Et c'est ça qui nous repose. Sa vie, remonter à la source. Et qui dit, même si on est seul,